Les pourparlers sur le nucléaire iranien doivent aboutir à la levée des sanctions américaines. 3 soldats syriens ont été tués par des frappes israéliennes. Et en Somalie, 13 terroristes Shebab ont été tués dans une frappe aérienne. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les pourparlers sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015 doivent aboutir à la levée des sanctions américaines afin de protéger les intérêts économiques de l'Iran, a déclaré dimanche 14 août Abolfaz Amoui, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Il a fait ces déclarations après une réunion de la commission visant à évaluer le dernier cycle des pourparlers nucléaires à Vienne. Les sanctions doivent être levées de manière à bénéficier au peuple iranien et à permettre aux commerçants et aux hommes d'affaires d'effectuer des transactions avec d'autres pays, a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernement iranien est tenu de présenter un rapport sur la levée des sanctions à l'organe législatif pour examen. Le Parlement examinera le projet de texte qui sera discuté lors des pourparlers de Vienne, a noté M. Amoui. L'Union européenne a récemment présenté un texte final du projet de décision sur la relance de l'accord nucléaire iranien. En attendant les décisions politiques des autres parties prenantes au pourparlers de Vienne. L'Iran avait signé le plan global d'action conjoint avec les puissances mondiales en juillet 2015, acceptant de freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump a retiré Washington de l'accord et réimposé des sanctions unilatérales à Téhéran, incitant ce dernier à renoncer à certains de ses engagements dans le cadre du pacte. Israël a lancé une attaque aux missiles sur l'ouest et le centre de la Syrie dimanche soir, 14 août. 3 soldats ont été tués et 3 autres blessés, a déclaré l'armée syrienne dans un communiqué. Dans la soirée de dimanche 14 août, des avions de chasse israéliens ont tiré plusieurs missiles sur des sites militaires à Damas, la capitale syrienne, ainsi que dans la ville côtière de Tartous, tuant au total 3 soldats. Des avions de guerre israéliens ont tiré des missiles depuis le ciel de Beyrouth, la capitale du Liban, contre des sites militaires situés dans la campagne de Damas, indiquait l'armée syrienne dans un communiqué. Une autre attaque, lancée simultanément depuis la Méditerranée, a touché des installations militaires à Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie, a-t-il ajouté. Des informations non confirmées indiquent que plusieurs explosions ont été entendues à Tartous et qu'au moins 2 missiles ont été tirés depuis l'espace aérien libanais vers la Syrie. Certaines sources libanaises ont cependant annoncé le nombre de missiles à 8. Des sources d'information rapportent que le système de défense a été déclenché à Tartous. L'agence de presse officielle syrienne Sana a annoncé l'interception par la défense aérienne syrienne de missiles hostiles dans le ciel de Tartous et au-dessus de la chaîne de montagnes de Ralamoun, près de la frontière libanaise. L'opération menée par le jeune Amir Sidavi, dimanche 14 août, à Rots occupé, a fait 8 blessés, dont 5 étaient de nationalité américaine. Le jeune palestinien Amir Sidavi a mené tôt dimanche matin, 14 août, une opération contre un bus près du mur d'Al-Burak dans la vieille ville de Qots. La fusillade a éclaté alors que le bus était stationné sur un parking près du mur d'Al-Burak. Le tireur est un palestinien de Silvan, un quartier de Rotsest. La presse israélienne dit qu'il était arrivé sur le lieu de l'incident en voiture, qu'il a tiré 10 balles sur le bus et puis sur une voiture avant de s'en aller en tirant sur les sionistes le long de la rue. Après 6 heures, il a été identifié par la police israélienne qui a bouclé le quartier de Silvan. Son domicile a été perquisitionné et des résidents ont été interpellés. Peu après l'opération, un porte-parole du Hamas a salué l'opération héroïque contre l'arrogance des soldats de l'occupation et des colons extrémistes, sans pour autant en revendiquer la responsabilité. L'attaque est survenue une semaine après que des avions israéliens ont mené une offensive dans la bande de Gaza visant le djihad islamique, déclenchant 3 jours d'intenses combats transfrontaliers au cours desquels le djihad islamique a tiré des centaines de missiles sur les positions israéliennes, causant des blessés et des dégâts matériels. Le Conseil judiciaire suprême CJS irakien affirme qu'il n'a pas l'autorité suffisante pour dissoudre le Parlement du pays, exhortant toutes les parties à s'abstenir d'impliquer le pouvoir judiciaire dans des rivalités politiques. Le CJS a fait cette annonce dimanche en réponse au religieux irakien Murtada al-Sadr, Mercredi, Sadr a mis en garde contre des conséquences non précises si le pouvoir judiciaire ne tenait pas compte de son appel à dissoudre le Parlement d'ici la fin de cette semaine et à ouvrir la voie à des élections anticipées. Soulignant que son travail principal est de traiter des questions juridiques, le tribunal a déclaré qu'il ne pouvait pas s'immiscer dans le travail des autorités législatives ou exécutives. L'Irak est aux prises avec une crise politique en l'absence d'un gouvernement fonctionnel depuis octobre, date à laquelle il a tenu ses dernières élections législatives. En juin, les 73 législateurs du bloc de Sadr ont quitté leur siège dans une décision considérée comme une tentative de faire pression sur leurs rivaux politiques pour qu'ils accélèrent la formation d'un gouvernement. Sadr et ses partisans ont contribué à attiser les tensions au cours des dernières semaines avec un grand nombre de ses partisans prenant d'assaut et occupant le Parlement, empêchant ainsi la formation d'un gouvernement près de 10 mois après les dernières élections. Le Koweït a nommé un ambassadeur en Iran plus de 10 ans après que le pays du Golfe Persique a rappelé son émissaire de Téhéran à la suite de la décision de l'Arabie Saoudite de rompre les relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a accepté samedi 13 août les lettres de créance diplomatique de Bader Abdullah al-Munaikh à Téhéran, selon un communiqué du ministère publié sur son site internet. Le ministère des Affaires étrangères du Koweït a également confirmé que Munaikh avait été nommé ambassadeur du pays arabe en Iran. Mohammad Irani est également ambassadeur d'Iran au Koweït. Le 26 juillet, M. Irani a déclaré au journal koweïtien Al-Rai que le ministre iranien des Affaires étrangères prévoyait de se rendre prochainement au Koweït. Le diplomate iranien a déclaré que le Koweït et l'Iran étaient en train de renforcer leurs relations, y compris sur le plan diplomatique. M. Irani a déclaré que le retour de la représentation diplomatique au rang d'ambassadeur est une question naturelle pour la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans le domaine politique, entre les responsables iraniens et leurs homologues au Koweït. Ces remarques interviennent quelques jours après qu'Amir Abdollahian a annoncé que le Koweït et les Émirats arabes unis enverraient bientôt des ambassadeurs à Téhéran. Il a déclaré que l'ambassadeur des Émirats arabes unis reprendrait bientôt son travail en Iran et que le Koweït a également nommé son nouvel ambassadeur à Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a approuvé les deux ambassadeurs arabes, a-t-il ajouté. Outre les liens historiques entre les peuples des deux pays, les relations entre les ministres des Affaires étrangères sont continues et bonnes, a déclaré l'ambassadeur d'Iran au Koweït. Les forces somaliennes ont tué dimanche 14 août plus de 13 terroristes du groupe Shebab, y compris des dirigeants ciblés, au cours d'une frappe aérienne menée dans la région de Hiran, dans le centre de la Somalie. La radio de l'armée nationale somalienne, SNA, a rapporté que parmi les victimes des opérations antiterroristes en cours, on comptait de hauts commandants Shebab. La frappe du dimanche a eu lieu quelques heures après que l'ISNA a déclaré que ses forces d'élite, DANAB, étaient parvenues à déjouer cette explosion de mine passée par des terroristes Shebab en périphérie de Kismayo, dans le sud de la Somalie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Poutine sera là, le rapprochement. 48 heures après la rencontre Bogdanov-Abdesalam, où les deux parties russes et yéménites auraient évoqué paix au Yémen, pétrole et présence militaire US en mer Rouge, Abdelaziz Ben Abtour, le premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen, a déclaré que la rencontre avec la partie russe était basée sur des intérêts communs. Soulignant que les résultats du voyage d'une délégation yéménite en Russie sont importants pour les deux pays, Ben Abtour a déclaré au micro de la chaîne d'information Al-Masira le samedi que le Yémen et la Russie partagent un point commun, à savoir affronter le projet américain dont de nombreux pays dans le monde en souffrent. Il a déclaré que le Yémen et c'est de s'unir aux alliés, dont l'amitié est basée sur le principe de l'égalité, des intérêts communs et de la lutte contre des ennemis communs. Ce responsable yéménite a indiqué que son pays tentait de s'allier avec la Chine et la Russie. Dès le premier jour, nous avons annoncé notre désaccord avec la politique américaine. La fausse légitimité que les États-Unis et l'Arabie saoudite prétendent soutenir n'est qu'une couverture pour piller et voler les ressources pétro-gazières yéménites et les verser dans des banques saoudiennes, a-t-il dénoncé. La Russie et Ansar Allah ont-ils des projets communs en mer Rouge propres à bloquer le détournement des richesses yéménites ? Possible. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir reçu le mercredi 10 août une délégation d'Ansar Allah à Moscou pour discuter des perspectives de parvenir à un règlement politique de la guerre au Yémen qu'on sait être impossible tant que les Yankees convoiteront les gisements yéménites. Au fait, les analystes politiques relèvent un changement substantiel de la politique russe au Yémen, où jusqu'ici Moscou se sentait proche des séparatistes sudistes soutenus par les Émirats. Un rapprochement de Moscou avec Ansar Allah est par ailleurs à interpréter dans le contexte de la guerre en Ukraine, où la résistance yéménite a été l'une des premières parties à avoir reconnu l'indépendance de Donbass. Militairement parlant, les capacités militaires d'Ansar Allah ne peuvent que susciter l'intérêt des Russes, ainsi qu'il en est question dans un récent livre publié par l'ex-chef d'état-major russe, le général de division Yuri Balievski, ancien chef d'état-major des forces armées russes, de 2004 à 2008. Le succès de l'Iran dans le développement de missiles guidés et les drones est relativement peu coûteux en utilisant divers composants et matériaux disponibles dans le commerce. Il est permis d'organiser leur assemblage et leur production sur le territoire de ses alliés. Balievski souligne que les munitions relativement légères et les missiles alliés, ainsi que les missiles balistiques les plus avancés dont dispose Ansar Allah, crée toujours de sérieux problèmes pour les systèmes de défense aérienne de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui sont dotés des systèmes modernes occidentaux. Et cela crée un tout nouveau modèle de combat.